Yofin, Erev Tov, les Koulam. Donc Erev Tov, ça y est, voilà, désolé pour le petite minute, comme ça il fallait que je me prépare, que je surtout que je trouve la bonne feuille. Alors c'est parti, on est lancé pour une étude de Pourim. Alors, évidemment, je me dis que vous savez déjà tout sur Pourim, qu'il n'y a absolument rien à vous apprendre. Voilà, comment vous dire? On sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur Pourim, c'est pour ça que ce soir, eh bien, j'aimerais voir avec vous quelque part quelque chose de central dans l'histoire de Pourim. Alors, on m'a demandé de donner un titre au cours, j'ai appelé ça les femmes de Pourim, mais en vérité, le titre n'est peut-être pas le meilleur, je pense que je vais le changer. Je pense que le titre que j'ai envie de donner en vrai, c'est Pourim ou le secret de ne jamais oublier. Et on va voir où les femmes de Pourim interviennent dans notre histoire. Alors les amis, tout commence Shabbat. Tout commence Shabbat dernier, car Shabbat dernier, comme vous le savez, c'était ce qu'on appelle Parashat Zachor. Alors Parashat Zachor, nous on la connaît comme étant la paracha où on lit, eh bien, les versets qui nous disent de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek. Comme je l'ai dit dans ma synagogue, celui qui n'a pas pu se rendre à la synagogue pour le Shabbat de Zachor, qui n'aura pas entendu donc la paracha de Zachor, pourra se rendre quitte de la mitzvah en entendant la Megillah. Eh oui, car pour ce qui est de se souvenir de détruire Amalek, eh bien je pense que dans la Megillah, on a notre compte de destruction d'Amalek avec la pendaison de Haman et de ses enfants. Donc, la paracha de Zachor ouvre en vérité, j'allais dire les festivités, ouvre l'entrée en matière véritable de Pourim. Certes, il y avait la paracha de Shkalim qui a eu lieu la semaine précédente, au début du mois de Hadar, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, de Zachor dans Shavua Shechalbo, Shavua Shel Pourim. Et donc, c'est évidemment le point de départ de Pourim. À ce moment-là, on se rappelle de cette mitzvah qui nous dit de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek. Il y a une première question que j'aimerais évoquer, c'est pourquoi y a-t-il une mitzvah de se souvenir? C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses dans la Torah où on nous dit « Zachor ». Alors, Zachor et Asher Asalecha Amalek, on connaît, mais on a également Zachor Asher Asalecha Hashem Elohecha le Miriam, ou alors Zachor et Yom HaShabbat le Kadesh, évidemment. Donc, quel est le point commun de toutes les fois où Dieu nous demande de nous souvenir? Mais les amis, je pense que je ne vous apprends rien lorsque je vous dis cette phrase prononcée par un des fondateurs de Tzahal qui s'appelait Yigal Alon et qui nous disait: un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. En d'autres termes, eh bien, si tu ne te souviens pas de ton histoire, eh bien, tu n'en apprendras aucune leçon. Tu seras donc condamné à revivre les erreurs du passé. La Torah me dit, Zachor et asher asa lecha Amalek. Zachor et asher asa lecha Amalek, les amis. Eh bien, le plus important dans le verset n'est peut-être pas ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième mot, mais peut-être le septième. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek en chemin. Amalek, vous savez, il n'y a pas 36 solutions. Amalek, il s'agit du petit-fils de Esav. Et c'est lui qui va pour la première fois tenter de nous tuer. Nous dit le Midrash que lorsque Yaakov s'en va, eh bien Esav veut le faire tuer, il envoie son fils Eliphaz. Mais Eliphaz est trop proche de ton Yaakov, il n'arrive pas à le tuer. C'est finalement le petit-fils Amalek qui prendra le relais. Mais attention, Amalek, on me dit souviens-toi, car il ne peut te faire du mal que lorsque tu es baderech. On avait déjà évoqué cette notion-là, la notion de Baderer, c'est-à-dire entre la période d'exil et la période de Géoula. C'est entre les deux, eh bien, ce moment où Amalek peut reprendre du service. À chaque fois, d'ailleurs, qu'on va être entre les deux, eh bien Amalek viendra. On l'a vu dans la première fois, lorsqu'en prototype, le peuple juif sort d'exil, Yaakov sort de chez Lavan, eh bien, il est à ce moment-là sorti d'exil, mais il n'est pas encore rentré chez Yitzhak en Eretz Israël. À ce moment-là, on connaît l'histoire, et ça arrive avec 400 hommes pour le tuer. C'est le prototype d'Israël face au prototype d'Amalek. Baruch Hashem, à ce moment-là, la Shoah que voulait mettre en place Esav contre Yaakov a été évitée. La deuxième fois, c'est lorsqu'on sort d'Égypte. Lorsqu'on sort d'Égypte, on n'est donc plus en exil de Pharaon, mais nous n'avons pas encore franchi le Jourdain avec Yahushua. Eh bien, à ce moment-là, va y avoir Amalek. Et c'est ce va y avoir Amalek, on fait la guerre contre Amalek, et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on te dit « Zachor, Asher Asa Lecha Amalek, Baderech, Betsetrem Mimitzrayim ». Plus tard, eh bien, pareil, lorsque Koresh, roi de Perse, nous donne la possibilité de quitter l'exil, de retourner en Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. Mais entre-temps, eh bien, on ne revient pas. Et avant de revenir véritablement avec Ezra et Nehemia et de reconstruire le Beth Amikdash, eh bien, entre les deux arrive l'histoire de Aman. Alors que faire? Eh bien, malheureusement, les choses se reproduisent dans notre génération. Alors qu'il y a eu la déclaration Balfour, alors qu'il y a eu San Remo, c'est-à-dire que les nations ont permis la sortie de l'exil, nous ne sommes pas encore en train de reconstruire l'État d'Israël en 1948, et nous savons malheureusement ce qui s'est passé entre les deux. Souviens-toi de ce que t'as fait à Amalek, Baderech. Ça, c'est une première chose. Et lorsqu'on va rentrer dans la question halakhique, de comment on fait la mitzvah de Zachor, puisque c'est une mitzvah. Zachor, Asher Asa Lecha Amalek, c'est un commandement positif. C'est d'ailleurs le commandement positif numéro 189. Le commandement 189 nous dit, ouais, il faut se souvenir de ce que t'as fait Amalek. Comment? Eh bien, nous allons réaliser la mitzvah de Zachor. Eh bien, tout simplement, bapé. Nous allons lire la paracha de Zachor, nous avons lu ce Shabbat la paracha de Zachor, nous allons lire la Megillah, et ainsi, en exprimant l'histoire, et bien nous en souvenons et nous ne recommettons plus les erreurs du passé. Du moins, j'espère que là, pour le coup, c'est bon. On ne recommencera plus les erreurs du passé, on se souvient. Mais les amis, la mitzvah de Zachor, c'est la mitzvah de préparation à Pourim. Il y a une autre mitzvah qui, quant à elle, est la mitzvah de Pourim. Et cette mitzvah-là, ce n'est pas non le Mishté, ce n'est pas le Mishloach Manot, ce n'est pas Matanot Levioni, mais ce n'est pas non plus la Megillah. C'est les quatre réunis. C'est une mitzvah qu'on a énoncée Shabbat, dans la paracha de Zachor, mais qui va véritablement prendre tout son poids pendant Pourim. C'est quoi cette mitzvah? Eh bien, je me permets de lire le verset. Le verset que vous connaissez, Zachor, Asher Asa Lecha Amalek, Bederech, Betsetrem, Mimitzrayim. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek lorsque tu étais en chemin, c'est ce qu'on vient de dire. Je saute les deux versets suivants et on arrive à la fin. Et on nous dit, Vaya be'aniach Hashem Elohecha Lecha Mikol Eifra Misaviv Baaretz Asher Hashem Elohecha Noten Lecha Nachala Ve'irishta. Timche et Zecher Amalek mitachat Hashamaim. Il y en a qui disent Timche et Zecher ou et Zecher. Bon, ça c'est les Ashkenazim qui aiment se faire des kiffs. Mais après on nous dit Lo Tishkach. Lo Tishkach Rabotai. Voilà la seconde mitzvah. Nous avons une mitzvah de nous souvenir. Nous avons une autre mitzvah qui est de ne pas oublier. Souviens-toi et n'oublie pas. Vous allez me dire, bah, c'est la même chose. Bon, ça va, c'est un synonyme. Souviens-toi, n'oublie pas, pareil. Non, 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 pas du tout. Souviens-toi, nous dit le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, sur la mitzvah de Zachor, comme on a dit tout à l'heure, Ech Zachor Bapé. Mais nous dit le Rambam, Ech Lo Tishkach, comment est-ce que tu arrives à cette dimension de « n'oublie pas » Bah, lève. Dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime bien quand on m'explique. Quand on parle de mitzvot, j'aime bien qu'on me dise qu'est-ce qu'il faut faire. Des philosophies. Une mitzvah, c'est quantifiable. Il y a la Megillah, il y a des halachot, il faut lire la Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire l'antishkar balev? Dans le cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, dans le judaïsme, eh bien, il y a une dimension fondamentale qui s'appelle la kavana. L'intention qu'on met dans les choses. L'intention qu'on va mettre dans nos mitzvot. Quand on fait une mitzvah, il y a un débat talmudique de savoir haïm mitzvot tzrichot kavana. Est-ce que les mitzvot ont besoin d'une intention ou si on les fait sans faire exprès, ben c'est quand même comptabilisé. La halakha est que mitzvot tzrichot kavana. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une... Alors attention, hein, je vous rassure, hein, il ne s'agit pas d'avoir la kavana du Harizal. Bien évidemment que non. Mais il faut être conscient qu'on est en train de faire une mitzvah. Les amis, comment vous dire? C'est vrai pour toutes les mitzvot. Hein? Il y a quelqu'un qui écrit un commentaire sur le YouTube et je ne sais que répondre. Alors je ne dirai que ben Toda Rabba, Gamani, Gamani, Oev Otra, Oev Et Kulam. Bekitsour, les amis, à propos des mitzvot, on a besoin d'une kavana. Sauf pour une. Il y a une mitzvah parmi les 613 que je vais te dire mieux que ça. Non seulement il ne faut pas de kavana, mais on ne peut la faire que sans kavana. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah des 613 mitzvot qu'on ne peut faire que beshogeg. À tel point que si tu n'es pas shogeg, tu ne peux pas la faire. De quoi on parle? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que ça peut être cette mitzvah-là qu'on ne peut réaliser que sans kavana? Je vais vous dire. Vous allez me dire aucun rapport avec Pourim, mais en fait, vous allez comprendre à quel point c'est lié. Shiloh Haken. Non. Pourquoi Shiloh Haken? Je suis tout à fait conscient lorsque je renvoie la maman.
Parce que uniquement, c'est lorsque l'individu n'était, ne savait pas qu'il allait le faire.
Ah non. Non, vous avez raison que je tombe devant le nid. Non, il y a marqué qui carré ken sipor le fanecha. Donc effectivement, c'est-à-dire que je suis tombé par hasard sur un nid. Mais le fait d'être tombé sur un nid, c'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est à partir du moment où je suis tombé sur le nid, je l'ai vu, eh bien je vais chasser la mer. Mais ça, c'est tout à fait conscient que je le fais. Il y a une mitzvah qui s'appelle, et elle porte très bien son nom. Exactement, Alex nous dit, ça s'appelle la mitzvah de Shichecha. La mitzvah qui s'appelle l'oubli. De quoi on parle? On est dans le monde de l'agriculture. Il y a plus de mitzvot qui sont liées à un homme qui possède un champ pour les pauvres. D'abord, une parcelle de son champ non moissonnée, c'est pour les pauvres, ça s'appelle PA. Il y a également, lorsqu'il va récolter ses épis de blé, tout ce qui va tomber de ses bras ou de sa machine, tous les épis qui vont retomber au sol, il n'a pas le droit d'aller les récupérer, ça s'appelle l'éket. Mais il y a une autre partie. C'est une fois qu'il a repris la voiture, qu'il est reparti chez lui. En chemin, il se dit, hop, oups, j'ai oublié de moissonner la partie derrière l'arbre. Eh bien, à partir de ce moment-là, il vient de faire la mitzvah de Shichecha. Alors, la mitzvah, c'est qu'il n'aura pas le droit d'aller récupérer après. Mais la mitzvah, il l'a fait au moment où il se rend compte qu'il a oublié. Et donc, s'il l'avait fait volontairement, ça ne s'appellerait plus Shichecha. Ça s'appellerait Péa. Donc, pour faire la mitzvah de Shichecha Rabotai, je ne peux le faire que volontairement. Matakua. Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a marqué Takua. Qu'est-ce que ça veut dire Takua? Je ne sais pas. Ça bug pas? Non, on m'entend pas? Houston? Johan? On m'entend, tout va bien?
Non, on ne m'entend pas toujours.
Hein.
Ok. Moi, chez moi.
Pas du tout.
Alors, je vous ai perdu quand, les amis? Parce que moi, ça marchait très bien.
Il y a une dizaine de secondes, à peu près. 15 secondes.
Ah! Bah alors, on va revenir 15 secondes en arrière. Retour vers le futur, les amis. Donc, je disais, la mitzvah de Shichecha, on ne peut le faire que involontairement, c'est lorsqu'on s'est rendu compte qu'on a oublié quelque chose, qu'à ce moment-là, eh bien, on a fait cette mitzvah. Si on avait fait volontairement, on a laissé une partie, ça s'appelle bushichecha. Donc, eh bien, nous avons une mitzvah ici, fantastique, qui est faite involontairement. Dans la Torah, ça se dit, ki tikzo ketzircha basadeh veshachavta omer basadeh, lo tashuv lekarto, la guerre la yatom velalmana yeh lemaan yivarecha Hashem Elohecha bechol maase yadecha. Cette mitzvah, eh bien, nous est approfondie dans la Tosefta. Dans la Tosefta, eh bien, on nous raconte une histoire. On nous raconte une histoire d'un homme qui était donc en train de récolter son champ et il s'est rendu compte qu'il avait fait la mitzvah de Shichecha. Il s'est rendu compte a posteriori qu'il avait oublié, eh bien, de moissonner une partie de son champ. À ce moment-là, il dit à son fils, « Mon fils, va me faire au Beth Amikdash un sacrifice de Ola et de Shlamim. » Alors là, le fils, il dit, « Bon, écoute, papa, pas de problème, mais enfin, c'est beaucoup d'argent. Dis-moi pourquoi tu es tellement heureux. » Il dit, « Mais parce que j'ai fait la mitzvah de Shichecha. » Alors le fils, il lui dit, « Oui, mais d'accord, c'est très bien qu'on a qu'à votre papa que tu es tellement enthousiaste pour les mitzvot. Mais quand tu fais d'autres mitzvot, tu n'es pas aussi heureux que ici. Alors pourquoi ici tu es tellement heureux ?» Répond le père. Mon fils, lorsque je fais une mitzvah quelconque, eh bien, je suis conscient de ce que je fais, j'y mets toute ma volonté, et donc celui qui est le responsable de la mitzvah, c'est moi. J'essaye de m'accorder avec la volonté de Dieu, mais il y a quand même une grande partie, la majorité, c'est moi. Lorsque je fais la mitzvah de Shichecha, je ne voulais pas la faire. Je n'avais pas prévu de la faire. Et je l'ai faite quand même. Ça veut dire que cette mitzvah-là, c'est 100% Dieu qui m'a amené à faire cette mitzvah. En d'autres termes, quand j'ai fait la mitzvah de Shichecha, je me suis retrouvé en connexion 100% 5G avec Ribono Shel Olam. Et c'est fantastique. C'est-à-dire que là, je suis sûr que j'étais en osmose complète. Et je ne vais pas être joyeux avec ça. D'être en osmose complète, d'être en connexion totale avec Dieu. Semble-t-il que c'est ça, la mitzvah de Shichecha. Alors les amis, cette mitzvah d'être en connexion totale et permanente, eh bien on va le retrouver, vous savez, on va faire une pierre de coup, on va parler, on va dire un petit mot quand même de notre paracha, ça sera une pierre de coup, ça nous rappellera les années où on a parlé la paracha, pendant quelques années on a étudié la paracha ensemble à la Midrashet Manitou. Donc, rappelez-vous, la paracha de Tetzavé, d'ailleurs qui est très souvent liée à Purim, la paracha de Tetzavé va nous mettre en valeur les habits du Kohen Gadol, du Kohen et du Kohen Gadol. Parmi les habits du Kohen Gadol, il y en a un qui est assez problématique. Cet habit s'appelle, c'est plus un outil, un ustensile qu'un habit, il s'appelle le tzitz. Cette mitzvah n'est que par rapport au champ. Attendez, je vais aller voir la question. Hop là, deux petites secondes. Voilà. Oui, cette mitzvah, effectivement, n'est que par rapport au champ. Effectivement, tu ne peux pas faire shrecha si tu n'as pas de champ. Effectivement, j'avoue. Quoi qu'il en soit, le tzitz. Le titre, vous savez, c'est le diadème, la couronne que met le Kohen Gadol ici, où il y a marqué « Kodesh Lachem ». La Torah nous dit « Vasita tzitz zahav taor, u pitarta alav pitukhechotam Kodesh Lachem. Vesamta oto al petil techelet vaya al mitznafet, el mul pena mitznafet. Ye. Vaya al metzach aaron venasa aaron et avon hakodashim asher yakdushu bnei Yisrael lechol matnot kodshem. Vaya al mitzchot tamid. » Les ratson laem lifnei Hashem. Nous dit la Torah que le tzitz, où il y a marqué Kodesh Lachem, doit être sur le front de Aaron, du Kohen Gadol. Mais le problème, c'est que la Torah nous dit Vaya al mitzro tamid. Vaya al mitzro tamid? Mais c'est pas vrai. Les amis, ce n'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que lorsque le Kohen Gadol sort du Beth Amikdash, il n'a pas le droit d'être avec ses habits de Kohen Gadol. C'est son bleu de travail, les habits du Kohen Gadol. Quand il sort du Beth Amikdash, il doit s'habiller normal. Donc ça veut dire que son tzitz, il ne l'a pas tout le temps. Et je vais vous dire mieux que ça. Lorsque le Kohen Gadol à Yom Kippour rentre dans le Kodesh à Kodashim, il n'a pas non plus son tzitz. Donc, non, il ne l'a pas toujours. Et pourtant, la Torah nous dit « Vaya al mitzro tamid ». Comment comprendre cela ? Eh bien, le Talmud, dans le traité de Menachot, nous dit la chose suivante. On apprend tzitz d'une autre mitzvah. Vous connaissez tefillin ? Un truc comme ça, une espèce de boîte qu'on met sur le, à l'endroit du tzitz. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens à la synagogue. Il y a des hommes qui sont déstressés du tefillin. Ça arrive. C'est une maladie très grave qui est incurable. Le stressé du tefillin. C'est la personne qui est à la synagogue et qui, au moins 7 fois durant la tefila, va prendre un miroir et se regarder le tefillin pour bien vérifier qu'il est où il faut. Comme si le tefillin bougeait sans arrêt durant la tefila. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le stressé du tefillin, c'est une maladie incurable. Tu ne peux pas lui enlever. En malasot. D'un autre côté, je me moque. Mais le Talmud nous dit, et je cite dans le traité de Menachot à la page 36, « Chayav adam lemashmesh betfilin kol sha'a ». Il faut que l'homme touche ses tefillines chaque heure. Ah, on n'est pas avec les tefillines tous les jours. Et, enfin, tous les jours. On n'est pas toute la journée avec les tefillines. Le Talmud nous dit, non. On nous dit « kalvachomer mitzitz ». Dans le tzitz de Kohen Gadol, on marque une fois le nom de Dieu, Kodesh Lachem. Alors que dans les tefilines, il y a marqué plein de fois le nom de Dieu dans le parchemin. Donc si le tzitz du Kohen Gadol, où il y a marqué qu'une seule fois, on dit il faut qu'il ait toujours sur lui, les tefilines, pareil. Seulement ni les tefilines, ni le tzitz ne sont béhémet toujours sur le front du Kohen Gadol ou sur mon front à moi pour les tefilines. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ve'aya al Mitzro Tamid? Les amis, on commence à rentrer dans l'histoire de Lot Ishkar, dans cette histoire du secret de Pourim qui est de ne pas oublier. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yaakov, qui s'appelait Rabbi Yaakov Miusiatin. Un Rebbe Miusiatin. Alors vous allez me dire, mais c'est qui celui-là? Où il a été nous pêcher un nom comme ça? Un Rebbe Miusiatin. Je ne l'ai pas inventé. Un Rebbe Miusiatin, Migdole Chassidut. Peut-être que ça parlera plus aux gens. Il est le petit-fils de Rabbi Israël de Rougine. La dynastie de Rougine, c'est une des grandes familles chassidiques. Rabbi Israël Mirougine, son petit-fils, le Rabbi de Houssiatine, est très particulier. Non seulement il est Rabbi chassidique avec toute la panoplie, mais c'est également un Rabbi ultra-sioniste. Il fait son alia dans les années 20 et il vient s'installer à Tel Aviv. Il y avait plein de rabbanim d'Europe de l'Est qui venaient dans les années 20. Mais ils allaient à Jérusalem, à Hebron, à Tzfat, à Tibériade. Le Rebbe de Houssiatin, il vient s'installer à Tel Aviv. Et quand on lui a demandé pourquoi il s'installe à Tel Aviv, Mechalele Shabbatot, Ochle Nevelot Trefot, Boale Nidot, c'est comme ça que les religieux, ils parlaient des gens de Tel Aviv, qu'ils sont des mécréants. Pourquoi tu vas t'installer là-bas? Et le Rebbe de Houssiatin répond, il dit parce que moi, je suis venu dans le pays des Juifs et je veux aller dans une ville juive. Une ville où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de mosquée, une ville juive. Et c'était ça Tel Aviv dans les années 20. Une ville juive. Le symbole de la résurrection juive. Il dit, je m'en fiche, ils font Shabbat, ils font pas Shabbat. Il y a Am Israël dans cette ville. Ben moi j'y vais. D'ailleurs, il deviendra voisin de palier d'un monsieur qui va devenir beaucoup plus connu que lui. Puisqu'il est le voisin de palier d'un monsieur qui s'appelle Chaim Nachman. Vous voyez ? Bialik. La rue dans laquelle ils habitaient tous les deux s'est appelée la rue Bialik à Tel Aviv. Bon, ça aurait pu s'appeler la rue Oussiatine, mais ils ont choisi Bialik. Zemayesh. Quoi qu'il en soit, le rabbi de Oussiatine, il a un tiche extraordinaire, un Dvar Torah fantastique, il faut absolument que vous lisiez, le soir de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et oui, Ben Gurion déclare l'indépendance à 4h de l'après-midi le vendredi. Donc le vendredi soir, les quelques heures plus tard, il y a un tiche chassidique à la table du Rebbe. Extraordinaire. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On en parlera peut-être à l'occasion de Yom HaTzmaout. Pour Purim, il va nous raconter quelque chose. Il nous raconte ce que lui a dit son grand-père, le Rebbe de Rougine, le jour de son mariage. Le Rebbe de Oussiatine se marie avec une jeune femme extraordinaire, certainement, qui est la fille du rabbi de Tchernobyl. Bon, il n'y avait pas encore eu Tchernobyl. C'est-à-dire, il se marie avec la fille du rabbi de Tchernobyl et son grand-père, le rabbi de Rougine, lui dit, juste avant de rentrer sous la choupa, il lui dit, écoute mon chéri, mon petit-fils, je voudrais que tu saches une chose. Sache que le père de ta kale, le père de ta femme, c'est un grand sadique. Uzocher kol rega sheyesh Hashem baolam. Dans la famille de ta femme, Zochrim et Hashem. Et là, il lui prend la main et il lui dit, mais sache que dans notre famille, anachnu lo shochechim. Uzachor avalata lo tishkach. Mais c'est quoi? Alors le Rebbe, il va expliquer. Il dit, c'est l'histoire d'un chassid. C'est un petit chassid comme ça. Comme dans les histoires chassidiques. Et ce petit chassid, eh bien, il décide un jour d'aller voir son Rebbe, son rabbi. Alors il prend son baluchon, il prend sa petite charrette et il va voir son rabbi. Oui, parce qu'une histoire chassidique, s'il n'y a pas de charrette et qu'il ne fait pas nuit, ce n'est pas une histoire chassidique. Donc il prend son baluchon, sa charrette, il fait nuit et il y va. Maintenant, le rabbi, il habite loin. Et donc, il va passer des jours à marcher. Et puis, à un moment donné, il n'est toujours pas arrivé, arrive Shabbat. Notre chassid s'arrête dans la première ville qu'il croise et il va aller à la synagogue pour le vendredi soir Shabbat. Il pensait dormir à la synagogue, demander peut-être la tzedaka pour le Shabbat. Mais le rabbin de la ville voit une nouvelle tête arriver dans sa synagogue et le voit prier avec ferveur. À la fin de la tfila, il vient le voir et lui dit « Shalom, d'où venez-vous? Est-ce qu'on peut vous inviter Shabbat ?» Et il l'invite. Le rav de la ville était un rabbin qui faisait partie du courant des mitnagdim, des anti-chassidiques. Durant la soirée, ils ont passé le repas, et ils ont discuté de halakha, de Haggadah, Talmud, tout ça, et ils ont vraiment accroché tous les deux. Et à ce moment-là, le rav lui pose la question fatidique. Il lui dit, dis-moi, où vas-tu? Et là, le chassid lui dit, je vais voir mon Rebbe. Oi, Veigewald, le rav a dit, Neber, pauvre gars, n'y aurait-il pas, par hasard, pas loin d'ici, dans cette ville peut-être, un rabbin suffisamment grand pour que tu puisses faire de lui ton rav, sans être obligé d'aller voir ton rabbi? Bon, vous avez compris qu'il parlait de lui-même. Et le chassid lui répond, Kvod Arav, je suis obligé d'aller voir mon rabbi parce que mon rabbi est très particulier. Il dit, ah bon, quoi? Eh bien, mon rabbi, c'est un juif qui n'oublie jamais Akadosh Baruch Hu. Et là, le Rav est un petit peu piqué au vif. Il lui dit, et quoi? Et les autres, ils oublient? Et le chassid, il dit, bah, oui. Ah bon? Genre, par exemple, moi, j'oublie. Et il lui dit, oui. Il dit, ah bon, tu sais lire dans mes pensées? Alors il répond, oui. Il dit, ah bon, eh ben tu sais quoi? On va faire un test. Tu dis que tu sais lire dans les pensées? À quoi je pense maintenant? Et là, le chassid se concentre et il dit au rav, vous pensez là maintenant au Tehilim, chapitre 16, verset 8. C'est le Tehilim où il y a marqué « Shiviti Hashem lenegdi tamid ». Et là, le rav, il dit « Pas du tout, tu vois, tu t'es trompé. Je pensais à un Tosfot que j'étais en train d'étudier ce matin. » Et le chassid lui dit, ah bon? Je me suis trompé? Vous n'êtes pas en train maintenant de penser « Shiviti Hashem l'enegdi tamid » qui veut dire « Je placerai Dieu devant moi toujours ?» Eh bien, vous comprenez pourquoi je dois aller voir mon rabbi ? « Lo tishkach ze shiviti Hashem l'enegdi tamid » Nous dit le Rambam, ça se passe dans le cœur. Mais en vérité, si on veut pouvoir atteindre l'otishkar, eh bien, il faut, comment vous dire, il nous faut la puissance de Pourim. Arriver au niveau de Shiviti Hashem, l'Enegdi Tamid, on a quelque part besoin de Pourim. À Pourim, il y a ce qu'on appelle Bitoul Amadrigot. Il y a l'annulation des différences. Ne serait-ce que dans les mitzvot de Pourim. Toutes les mitzvot de Pourim sont là pour nous rassembler. La Megillah nous raconte une histoire fantastique dans laquelle on voit qu'il y a quelqu'un qui a décidé de tuer tout le peuple juif. Tout le peuple juif. C'est-à-dire, que tu sois ashkénaze, séfarade, religieux, pas religieux, de gauche, de droite, tu votes Bibi, tu votes pas Bibi, tous! La lecture de la Megillah montre qu'il n'y a pas de différence entre le Ham Israël et le Ham Israël. Mais la lecture de la Megillah dit quelque chose d'autre de fantastique. Quand on parle de Bitou la Madrigot, les amis, il y a une question qui est fondamentale, qu'on pose toujours, qui dit, où est Dieu dans la Megillah? Où était Dieu dans la Megillah? Il n'est pas marqué dans la Megillah. Eh bien justement, comme Dieu n'est pas marqué dans la Megillah, alors il est où dans la Megillah? Il est partout. Eh oui. Dans les autres livres du Tanakh, il est là où il est marqué. Mais dans la Megillah, il n'est marqué nulle part, donc il est présent partout. Ce qui veut dire que la dimension du divin, Dafka Purim, se trouve partout. Megillah, Bitula Madrigot. Matanot la Evionim, c'est que, ne serait-ce que pour un temps, le pauvre qui pourrait se sentir inférieur, eh bien, il ne le sera pas. Il ne le sera pas. J'en fais mon combat personnel. Il y a évidemment Mishloach Manot Ishlereu, pour rassembler les juifs entre eux. Et que dire du Mishté? Il n'y a rien qui rassemble plus les cœurs que de Mishtéiz Beyachad. Quand tu manges ensemble, eh bien, tu es ensemble. Lorsque tu comprends cela, alors tu comprends que le Mishté de Pourim, qui vient clore les mitzvot de la journée, il faut faire le Mishté après avoir lu la Megillah, après avoir fait Mishloach Manot, et après avoir donné Matanot Levionim, parce que il est fort probable qu'après le Mishté, tu ne sois plus en état de faire les autres mitzvot. Ce qui veut dire que lorsque tu fais le Mishté, tu arrives à une dimension fort de... Tu arrives à une dimension de Behemet Ein Shum Madrigot Akol Oto Davar. Tout est ensemble. Tout est réuni, tout est un, tout est lotishkar. À Pourim, vous le savez, eh bien, on arrive à une dimension qui est de Chaya Vinishle Besume Bepuraya, on doit boire un petit peu à Pourim, Ad Deloyada Ben Arur Aman Le Baruch Mordechai. Que les choses soient claires, à aucun moment il faut se tromper et dire que Aman il est Baruch, et que Mordechai, il est Arour, Chas Veshalom. Aman, il restera toujours Arour, et Mordechai, il restera toujours Baruch. Seulement, tu ne fais plus la différence entre Dieu qui se dévoile par Baruch Mordechai, et Dieu qui se dévoile par Arour Aman. Le dévoilement est le même. Mais pour ça, tu peux pas le dire lorsque véritablement tu es conscient de tes paroles, actions, réflexions. Parce que tu vas... Non, tu ne peux pas dire que Haman et le Rav Kook, c'est le même dévoilement de Dieu. Zek Dusha, Rav Kook, Veze Siatuma, Haman. Oui, mais en vrai, en vrai, en vrai. Akadosh Baruch Hu se dévoile et là, et là. À Purim, tu arrives à cette dimension de Lotishka Rabotai. Je vais vous dire, lorsque j'étais à la Yeshiva, une année, on a fait le Mishté à la Yeshiva. C'était fantastique. Grosse ambiance. Et le Mishté s'est éternisé. Et je crois qu'il devait être quelque chose comme 11h du soir. Quand à ce moment-là, le Rav, le Rosh Yeshiva, s'est levé et a tapé comme ça du poing sur la table et il a dit « Maïriv !» Il fallait aller prier Arvit. Il a dit « Arvit !» Alors tout le monde s'est levé, on a fait Birkat Amazon et tout ça, et on a été faire Arvit. Maintenant, le Rav, il était, comme diraient les inconnus, torchon, chiffon, carpette. Il était ad deloyada. Il arrive dans le Beit HaMidrash, il met son talit sur la tête, il commence à prendre le sidour et il veut faire Vahou Achoum. Et moi, juste avant qu'il commence, je suis venu le voir, je lui fais Arav, Assour. Il commence à Assour. Il dit Arav, Arav lo yachol leitpalel, Arav Shikor. Il dit, vous ne pouvez pas prier? Vous êtes. Il m'a dit, Vazma. Et alors? Alors je lui ai dit, Shikor Assour lo leitpalel. Un mec bourré, il n'a pas le droit de prier. Il m'a dit, Tochiach, prouve-le. Je lui ai dit, ok, laissez-moi 2 minutes, je vais le prouver. J'étais prendre le Shulchan Aruch, j'ai ouvert à la page, je lui ai donné. Au début, il a pris la page à l'envers, ensuite il l'a pris à l'endroit. Finalement, il a lu comme ça, maintenant, tout le monde s'était réuni autour, c'était devenu l'attraction. Et il a lu comme ça, Shikor Assour Leitpolel. Et il a fermé le livre, il a embrassé le Shulchan Aruch, et il me l'a collé contre moi, et il m'a enlacé comme ça très fort, et après il m'a dit Shoite, ça veut dire idiot. Et là il me regarde avec un grand sourire et il me dit Mimatai Shikor Chayav Beshulchan Aruch? Depuis quand un Shikor il doit respecter le Shulchan Aruch? Ah, et d'après la halakha, un chicor, il est pas tour du Shulchan Aruch. Et il a lancé un arvit extraordinaire. Alors, c'est sûr que d'après la halakha, chicor la alit palel. Nous dira le Rav Kook. Chicor alit palel. Chut mi beyom purim. Parce que beyom purim, il y a une madrega à purim qui est fantastique. Qui est que, quand c'est pas Pourim, il y a 3 zones dans le monde. Quand c'est pas Pourim, hein, quand c'est pas Pourim, il y a 3 zones dans le monde. Il y a le zone de mitzvah, il y a la zone qui s'appelle Avera, et il y a une 3e zone qui s'appelle Parvé. C'est-à-dire, il y a des actions qui sont des actions du domaine de ce qu'il faut faire. Moutar, mitzvah, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et il y a plein de choses qui sont au milieu, qui sont moutards. C'est pas obligé, mais c'est pas interdit. Ok ? Ces dimensions de moutard s'appellent dans le langage de la Kabbalah klipat noga. Les femmes s'impatientent, hein ? Ne t'inquiète pas. S'appelle, et puis tu sais quoi, c'est pas parce qu'il y a marqué femme, si au final on parle pas des femmes. Là on parle de tout le monde, on a dit qu'il n'y avait plus de madrigote. Non mais t'inquiète pas, ça va venir. On parle de klipat noga. Noga, c'est ce qui est parvé. Pas obligé, pas interdit. Le dit le Rav Kook, dans la vie de tous les jours, on doit faire attention à noga. Parce que c'est vrai que c'est permis, mais ça peut te faire tomber dans ce qui est interdit. Tu as le droit de boire un verre de vin. Mais si tu commences à boire, tu vas faire des choses qui ne sont pas permises. Avala Purim, Klipat Noga devient du domaine de la mitzvah. Et tu fais en sorte que le monde, en fait, ne soit que soit ce qui est interdit, soit ce qui est mitzvah mamash. En d'autres termes, à Purim, eh bien, on dévoile cette dimension extraordinaire de l'otishkar, de shiviti Hashem lenegdi tamid, que tu fais un avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, quand on lit la Megillah, et quand on réfléchit à cette dimension de ne faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a deux acteurs principaux de la Megillah, vous le savez. Il y en a un qui s'appelle Mordechai, et il y en a un autre, une autre, slicha, qui s'appelle Esther. Très bien. Mais sauf que, lorsque le Talmud, dans le traité de Houlin, va poser la question « Mais d'où on peut trouver Mordechai dans la Torah ?» on va nous sortir un verset qui nous parle de Mordechai, qui nous parle d'une dimension. Mais lorsqu'on nous demande « Ve Esther mina Torah minayin ?» d'où on voit marqué Esther ? Eh bien, on nous dira « Ve'anochi aster astir panai bayomahu ». Ce qui veut dire que c'est Esther qui nous dévoile en vérité Akadosh Baruch Hu. Par Esther, Dieu se cache. Oui, bien sûr, Dieu se cache. C'est pour ça que pour le dévoiler, on lit la Megillat Esther. Mishe Megale et Anistar. Mazé Megillat Esther. Megillat, nous disait le Rav Tzvi Yehuda Kouk, c'est les lettres de Magal Yah, de dévoiler Dieu. Megillat Esther, c'est dévoiler ce qui est caché. Au travers des générations, que ce soit depuis Chava Imenu, en passant par Sarah Imenu, par Rivka, par Rachel, Léa, ce sont les femmes d'Israël qui ont toujours rappelé à ceux qui se souvenaient, les hommes, que Assur Lishkoach. Depuis Chava Imenu, en passant par Sarah, Dieu a dit à Abraham, Shema Bekola. Elle, elle sait comment ne pas oublier. De génération en génération, les hommes se souviennent et les femmes n'oublient pas. Lorsque Dieu va se dévoiler au Mont Sinaï, lorsqu'il parle à Moshe, il lui dit une phrase que vous connaissez très certainement. Il dit « Kotomar levet Yaakov vetaged livne Israël. » Mais c'est « Kotomar levet Yaakov » nous dit Chazal, c'est lorsqu'il parle aux femmes d'Israël. « Vetaged livne Israël » ce n'est plus Moshe qui parle, c'est « Bet Yaakov » nous dit le Kliyakar. Ce sont les femmes d'Israël qui vont aller transmettre à leur mari. En d'autres termes, Moshe a parlé aux femmes et les femmes ont parlé à leur mari. La transmission du dévoilement se passe par nos mamans, se passe par nos épouses et par nos filles. La première d'entre elles, Chava Imenu, lorsqu'elle a mis au monde son premier fils, elle a dit « Kaniti ish et Hashem ». Voilà, voilà, j'ai réussi, en devenant maman, à réaliser le projet de la création. Esther, durant la Megillah, est celle qui va finalement faire que tout va se dévoiler. Comment ? Va tomer Esther la melech b'shem Mordechai. Esther, c'est elle qui a dit au roi l'histoire de Bigtan et Teresh qui voulaient le tuer au nom de Mordechai. ce verset-là, va tomber Esther la Melech, Beshem Mordechai. Ce verset-là, eh bien, sert de point de départ à un enseignement du Talmud très important qui nous dit Kola Omer Davar Beshem Omro, Mevi Geoula Laolam. Esther est celle qui amène cette Geoula. Mais ce n'est pas seulement Esther. C'est comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure des générations, les femmes d'Israël qui sont celles qui transmettent la dimension de Lo Tishkach. Lo Tishkach, Zeshiviti Hashem Lenegdi Tamid. Ce ne se passe pas dans l'accomplissement d'une mitzvah. C'est tout ton être qui est en relation directe avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on atteint quand on arrive à Purim, à Ad Delo Yada. Kshani Yodea Ani Zocher. Kshani Kolkach Zocher Azani Magia Lelo Yodea. Je l'ai dit en hébreu, je le traduis. Quand je sais, je peux me souvenir. Mais quand je me souviens tellement, eh bien, j'arrive à prendre conscience que je ne sais plus. Mais pas je ne sais plus. Je ne peux plus mettre des mots sur une réalité qui est tellement vraie. Lorsqu'on reçoit l'enseignement de nos grands-parents, et lorsque nos grands-parents disparaissent, pendant un temps, nous vivons avec le souvenir de ce qu'ils nous ont légué. Mais il y a un moment où ce qu'ils nous ont légué fait tellement partie de nous qu'on n'arrive plus à se souvenir. Lo shochachim. On est atteint à un autre stade qui est que maintenant, ma grand-mère vit à travers moi. Ani lo shochach. Je n'ai même plus besoin de me souvenir, de dire une phrase pour rappeler sa mémoire. Ma vie de tous les jours, c'est sa mémoire. Le secret de Purim, c'est Lo Tishkach. Le secret de Purim, c'est de porter dans notre être au plus profond cette dimension que, oui, on va lire la Megillah, on va lire Shabbat Zachor, on va se souvenir pour que ça devienne tellement ancré en nous qu'on n'ait même plus besoin de dire quoi que ce soit pour que ça fasse partie de nous. Purim, finalement, eh bien, c'est ça. Purim, c'est le moment... Vous savez, cette fête, elle est fantastique. Cette fête, elle est fantastique. Elle s'appelle coup de bol. Cette fête, c'est génial. Cette fête, elle s'appelle j'ai eu de la chance. Pour, il pile pour ou agoral. Ma bouteille. Y a-t-il béhémet un coup de bol dans l'histoire? Einstein disait le hasard, c'est lorsque Dieu veut se dévoiler incognito. Alors, qui suis-je pour dire qu'Einstein avait tort? Mais je ne pense pas que c'est le fait de se dévoiler incognito. Le hasard, le micré, le pourim, c'est le fait de permettre à Dieu de se dévoiler pas incognito, mais de manière permanente. Lorsqu'il y a la main de Dieu directement dévoilée dans la mer rouge, bon ben d'accord, là il y a le dévoilement de Dieu. Et puis après la mer se referme et puis... je ne vois plus. Et puis après, il y aura la manne. Alors, je le revois. Mais lorsque je rattache pour à Kadosh Baruch Hu, je n'ai plus besoin qu'il ouvre la mer pour savoir que chaque instant de ma vie est relié à lui. C'est de ça qu'on parle. Alors, j'ai dit les femmes de Purim. En fait, ce n'est pas les femmes de Purim. C'est les femmes qui, grâce à Purim, nous apprennent à nous qu'est-ce que c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien qui ne s'explique pas parce qu'il est permanent. Et donc, quand je le ressens tellement profondément, ani pashut lo shokheach. Certains ont besoin de s'en rappeler. D'autres ne l'oublient pas. Une mère qui porte son enfant dans son ventre, on n'a pas besoin de lui rappeler qu'elle est enceinte. Même quand il bouge pas, même quand il donne pas de coup de pied, il le rachate. Le mari, il a besoin d'une échographie pour se rappeler que sa femme est enceinte. Vous savez, l'iskor, il lo shochachat. La fête de Pourim, c'est la fête qui nous permet à nous, à Israël, fort de toutes les fêtes de la Torah, qui viennent finalement nous rappeler d'Akadosh Baruch Hu. La fête de Pourim, c'est le moment où j'ai plus besoin de me rappeler. Pashut, ani lo yodea ad kama ani yodea. Et je terminerai en disant que celui qui l'a compris mieux que n'importe qui, eh bien, c'est mon cher Rabbeinu, qui d'ailleurs a eu sa brit mila à Pourim. Il est né le 7 Adar, et donc 8 jours plus tard, c'était Pourim. Mon cher Rabbeinu, lorsqu'il était tellement en osmose avec Akadosh Baruch Hu, qu'il a reçu les deuxièmes tables de la loi et la Torah, il redescend avec les tables de la loi. Et à ce moment-là, nous dit la Torah, où Moshe lo yada. Où lo yada ? Où lo yada ki karan or panav. Ça veut dire qu'il est arrivé à la dimension de lo yodea, de ad de lo yada, lorsque sa face éclairée. Sa face éclairée, il n'en était même pas conscient. Ça veut dire quoi? Il n'était pas conscient, mais il le savait. Il ne le savait pas, mais il le savait. Il le savait tellement qu'il ne le savait pas. Alors, vous me demandez de vous rappeler, c'est quoi cette inversion, Baruch, Mordechai, Arur, Aman? Mais je vous réponds. Quand on atteint cette dimension-là, eh bien, on comprend que Akadosh Baruch Hu se dévoile par l'intermédiaire de ceux qui vont faire le bien, Baruch, Mordechai. Mais il se dévoile également par le corona. Le corona, c'est mal. Le corona, c'est pas bien. Le corona, ça ne nous fait pas kiffer. Nachon. Mais n'y a-t-il pas ici, là aussi, un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu? Quand j'ai dit le corona, ça nous touche, ça nous parle. Mais ce n'est pas encore extrêmement violent. Si je vous disais qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile également par Hitler, Yimach Shmo Vezicho, ah là, c'est plus dur. Nahon, c'est pour ça que je n'ai pas le droit de le dire. Je ne le dirai que lorsque j'aurai bu. Parce que consciemment, même si dans un côté de ma tête, je sais que Dieu se décide par le mal, mais il ne veut pas. Et moi non plus, je ne veux pas. Je veux servir Dieu par le bien. Je veux servir Dieu par la Torah, les mitzvot. Mais je sais que même si ça passe par des chemins tortueux, c'est aussi un dévoilement de Dieu. L'autre personnage, et je vous promets, je termine par là, mais si vous m'avez rentré là-dedans, je suis obligé d'en parler. Il y a un autre personnage dans la Megillah. Il y a un personnage que je n'aime pas, ce personnage. Et pourtant, on lui fait un kavod incroyable. Vous savez que lorsqu'on dit le nom d'un tzaddik, le Rav Kook par exemple, on doit dire, après Alpi Alacha, on doit dire Zatzal. Zecher Tzaddik Livracha. C'est la Alacha. Lorsque tu évoques le nom d'un tzaddik, tu dois dire Zecher Tzaddik Livracha. Lorsque tu évoques le nom d'un Racha, tu dois dire Shem Rechaim Irkav. Lorsque tu dis Aman, nous on a l'habitude de faire du bruit. D'après la halakha, tu ne dois pas te lever et dire tu dois te lever et dire Shem Rechaim Irkav. Nachon. Et quand tu dis le nom d'un tzaddik, tu dois dire Zecher Tzaddik Livracha. Seulement, la halakha nous dit, je vais te donner un exemple. Il y a un exemple dans la Megillah de tzaddik qu'il faut dire Zecher Tzaddik Livracha. Vous savez qui c'est? Moi j'aurais pensé Mordechai. Moi j'aurais pensé Esther. Moi, j'aurais pensé peut-être même à Tach. À Tach, le serviteur de Esther, qui n'est autre que Daniel. Ben non. Non, la me dit.
Voilà.
Comment tu dis?
Harvona.
Eh oui, Harvona.
Harvona. Oui.
Eh oui, Harvona, Harvona, Zachor Latov. Et il y a même une chanson. Harvona, 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 Zachor Latov. Mais c'est qui ce Harvona, Zachor Latov? Harvona, c'est un capot. Non, mieux que ça, c'est un collabo. Harvona, c'était un des mecs qui était un copain d'Aman, qui a aidé Aman à mettre en place l'arbre sur lequel on voulait pendre Mordechai. Et le lendemain, quand il y a eu le retournement de situation, que Aman a été démasqué, que machin, que truc, il y a Harvona qui arrive et qui dit à Achashverosh, Gvedameler, si, moi je dis ça, je dis rien, mais il y a déjà un arbre qui est prêt, si vous voulez le pendre, c'est bon. Et là, on te dit Harvona Zachur Latov. Nos sages vont nous dire Harvona Zeliaou Anavi. Eliyahu HaNavi. Mais quoi, Harvona, c'est Eliyahu HaNavi? Harvona, il dit comme ça. Hine haetz asher echin le Mordechai. Mais c'est Hine haetz. Vous savez de quel etz on parle? Je pense que vous avez compris. Lorsque le Talmud nous demande d'où on trouve Aman dans la Torah, on nous dit chez Nehemar Aminaetz, Asher Amarti Lecha Mimeno Lole Echol Achalta. On parle du Etz Adat Tovara, Etz Achaim. Harvona dit Inaetz! Car Harvona comprend que ce qui devait servir le mal va maintenant servir le bien. Que ce qui est pour l'un et pour l'autre. Parce que Ribono Shel Olam dévoile qu'il est en permanence en contact avec sa créature. Shabbat avant Purim, anachnu zochrim. À Purim, grâce à nos femmes, anachnu lo shochachim. Chag Sameach, à toutes et à tous.
Tout là-bas, merci beaucoup, Arizan Chizon. S'il y a des questions, chers amis, vous pouvez ouvrir vos micros, poser les questions.